Le père Marie-Eugène est né 3 ans avant la mort de Sainte Thérèse. Et à l'âge de 13 ans, il a été bouleversé par des paroles de Sainte Thérèse et c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'être prêtre. C'est peut-être le premier moment de la rencontre qui est devenu après une communion des âmes, une vraie amitié spirituelle entre le père Marie-Eugène et Sainte Thérèse. Après les reliques de Sainte Thérèse, Monseigneur Capnose, qui est notre archevêque ici dans le diocèse d'Avignon, a voulu que Sainte Thérèse prépare et annonce la béatification du 19 novembre du père Marie-Eugène sur Avignon. Et de fait, une quinzaine de lieux dans le diocèse sont visités depuis 15 jours, où beaucoup de monde se rassemble autour des reliques de Sainte Thérèse. Et ce qui est un fruit immédiat et visible, ce sont de nombreuses conversions et de très très nombreuses confessions chaque jour où passe Sainte Thérèse.
La béatification va avoir lieu en même temps que la fin du jubilé de la miséricorde. Et justement, le père Marie-Eugène disait « J'ai compris la miséricorde, Sainte Thérèse en a senti la douceur, moi j'en sens la puissance. » Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ?
Nous la touchons comme prêtre, cette puissance de la miséricorde, quand une âme s'approche du confessionnal. C'est pas tellement les péchés qui sont intéressants, si je puis dire. C'est de surprendre la grâce de Dieu, la miséricorde descendre dans une âme qui s'ouvre. Ça oui, nous en sommes témoins, nous les prêtres. Et ce que disait Sainte Thérèse, ce que disait pas Marie-Eugène, d'une part nous le vivons parce que nous sommes pécheurs comme tout le monde, et d'autre part nous le vivons comme père, à travers notre paternité, la grâce de la miséricorde passe dans les âmes.
Quels sont les autres fruits de la vie du père Marie-Eugène que vous souhaitez aussi mettre à l'honneur à l'occasion de cette béatification ?
Alors, ils sont très nombreux les fruits du père Marie-Eugène. D'abord, c'est un serviteur humble qui a passé son temps depuis l'âge de 13 ans, à regarder Jésus et à orienter sa vie à travers ce regard qu'il portait sur Jésus. Ensuite, le père Marie-Eugène disait au soir de sa vie, il a travaillé tout au long de sa vie, que l'Esprit-Saint était son ami, donc de permettre à l'Esprit-Saint de réaliser en nous l'œuvre que le Père veut réaliser en nous à travers l'Esprit-Saint. Et puis d'autres fécondités comme la fondation à Notre-Dame de Vie, à Vénasque, de l'Institut, de la formation des prêtres, des laïcs. C'est toute cette spiritualité de l'oraison qu'il a enrichie par sa propre expérience et les très nombreuses retraites qu'il a prêchées en France et dans différents pays du monde. C'est assez impressionnant de voir comment un homme a pu être aussi rayonnant dans les écrits, dans les fondations, dans ses périples à travers le monde en quelques années. C'est très très impressionnant. On est émerveillé de voir que le fruit de tout ça, c'est parce qu'il a eu d'abord le primat de regarder le Christ. Il disait, mais c'est regarder Jésus, tourner votre regard vers Jésus, orienter notre regard à partir de Jésus qui fait que notre vie deviendra féconde. C'est l'évangélisation.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Il me semble que l'un de ses ouvrages phares, c'est justement « Je veux voir Dieu ».
Oui, on pourrait s'arrêter au titre, parce que ça nourrit déjà toute une vie. Et nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour la gloire. J'ai été créé par amour et pour aimer, être aimé et vivre en plénitude de cet amour au ciel. Qui veut dire aussi à Sainte Thérèse que je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et c'est très vrai, en la personne du père Marie-Eugène, cette attention et cette tension vraiment tournée vers le ciel, en étant très concret, après, quand on lit ses retraites, quand on lit, par exemple, les différentes retraites qu'il avait, sont entre Tamani, différents textes, on est très touché. Il nous rejoint exactement dans ce que l'on vit, et même si c'est des retraites qui ont été prêchées il y a un peu plus de 50 ans, elles sont d'une extraordinaire actualité.
Oui, c'est-à-dire cette actualité aussi, à la fois de l'intériorité, de regarder Dieu, de l'oraison, comme vous avez dit tout à l'heure, et en même temps, pour qu'ensuite ça se matérialise en acte.
Voilà, tout à fait. Parce qu'on n'est pas des anges, et notre vie s'incarne, ça c'est important. Nous sommes incarnés et la preuve des reliques, quand on vénère des reliques des saints, montre bien qu'on est incarné. C'est un des signes de la résurrection du Christ. Et puis pour moi, c'est une très forte réponse, les reliques d'un saint ou d'une sainte, au gender et au transhumanisme, parce que le vrai homme ajouté, c'est l'homme qui est réalisé totalement en Dieu, c'est-à-dire la sainteté. Ça, c'est l'ajout qu'on voudrait faire à chaque personne humaine, que la rencontre personnelle avec Jésus, qui change, qui bouleverse toute une vie, qui change toute une vie, qui lui donne vraiment ce pour quoi elle est faite, sa vraie vocation.
Cette incarnation en acte, finalement, comment est-ce que le père Marie-Eugène lui-même l'a vécu pendant sa vie ?
Très proche des gens, très attentif à chacun, saluant tout le monde, prenant le temps d'écouter tout le monde. Chaque personne était unique. Et je crois que c'est ça, en fait, c'est l'exercice de sa paternité qui a beaucoup touché. Et comme il exerçait sa paternité de manière la plus humble, la plus proche de Dieu possible, l'Esprit-Saint a pu travailler, rejoindre de très nombreuses âmes, et encore aujourd'hui, à travers la lecture de son livre ou de ses écrits, d'autres comme des retraites, C'est assez impressionnant cette fécondité à différents niveaux dans la vie du Père Marie-Eugène.
Et une fécondité aussi qui aujourd'hui s'incarne au sein de l'Institut Notre-Dame de Vie. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur cet institut ?
Alors moi je ne suis pas de l'Institut, je suis simplement au service du diocèse dans la pastorale familiale, mais ce qu'on appelle Notre-Dame de Vie, c'est un vieux sanctuaire marial très antique du 6e siècle, je crois, si je ne me trompe pas. Et la Vierge, en fait, lui a demandé de venir s'installer ici. On y venait avant le Père Marie-Eugène déjà, pour des familles qui avaient du mal à avoir des enfants, où l'enfant tardait à venir, où la grossesse se passait mal, ou lui confier des avortements. On venait déjà à ce moment-là, dès le 6e siècle, demander des grâces et prier Marie pour la cause de la vie naissante, pour l'accueil de l'enfant à naître. Et c'est précisément là que la Sainte Vierge a demandé au Père Marie-Eugène de s'installer et qu'il a fondé Notre-Dame de Vie, puisque en fait il venait du nord de la France, de Lille, et puis on lui a dit bah, « allez à Tarascon, allez prêcher à Tarascon ». Et puis il dit « bon, bah, je vais obéir ». Il ne voulait pas trop descendre. Et puis en fait, écoutant la voix de la Providence dans son âme, dans son cœur, il est arrivé jusqu'au petit village de Vénasque où il a vu ce sanctuaire de Notre-Dame de Vie. Et la Vierge lui a parlé dans son cœur en disant que c'est là qu'il fallait faire cette fondation.